Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine de 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Mercredi, bonsoir mon cher Hugues.
Bonsoir mon cher Rudy.
Et nous saluons bien bas notre ami Julien de Meuse qui est au contrôle.
C'est un fidèle.
Il en reveut le coquin, ouais. Il en redemande.
Et d'autant plus qu'il sait que le mercredi est une soirée de plaque tournante. Nous avons parlé des films en salle, nous allons parler des films ou des séries visibles sur les plateformes dans la deuxième partie de la semaine.
Oui,
voilà.
Oui. Mais ça, c'est après. Après avoir...
Oui.
Rebooter lundi.
Faire un replay.
Un reboot.
Attention, je fais du teasing en même temps. Vous faites un replay, oui.
Donc, on s'est réunis avec Chapelle Rohan qui me dit « Non, écoute, laisse tomber, ça sert à rien, c'est la Belgique, de toute façon, il se passe rien, et quand il se passe, c'est à côté de la plaque. Voilà. » Mmh. On faisait allusion, évidemment, à lundi. Alors, j'insiste, j'ai dit « Mais non, déjà, je lui avais envoyé 48 roses mauves, qui sont ses roses préférées. » Mais non, c'est très gentil, mais laisse tomber, tu sais, à part toi. » J'ai dit « Non, on ne va pas en rester là. Oui, mais il ne faut pas embêter Hugues avec ça. » J'ai dit « On va laisser Hugues en dehors de ça. »
Oui. «
On va laisser Hugues totalement en dehors de ça. » Et donc, je proposais aujourd'hui qu'on fasse, on va vous économiser aussi, de faire un reboot. Voici en fait ce qui aurait dû normalement se passer lundi.
Et musicalement, je vais comprendre quelque chose.
Écoutez, j'ai envie.
Bien, ça va être difficile.
Non, ça va être limpide.
Ah.
Ça va être absolument limpide. Et j'ai envie de la faire courte parce que je vous vends l'article.
On a le temps, je vous en prie.
Non,
je vous vends, à l'aise. Hein.
Je vous vends l'article sous toutes les coutures,
oui.
Depuis des semaines, des mois.
Ah,
il
oui.
Y a un nouveau Chapelle Rohan qui est sorti vendredi pour mon plus grand plaisir, pas que personnel.
Non.
Donc là, par exemple, cette jeune fille formidable, elle sort sa nouvelle chanson sous le format d'un 45 tours très mignon en vinyle rouge.
C'est plus de l'amour, c'est de la rage.
Bah oui, donc c'est ouais.
Bon.
Mais enfin, il reste quand même l'essentiel, à savoir la chanson, et c'est le nouveau Chapelle Rohan.
It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth.
Good luck, babe.
Dites, c'est pas mal votre truc, ce que vous
c'est
avez inventé
mal.
Là.
Oui.
Rediffuser
oui.
Une partie de l'émission oui. De deux jours avant, mais il faudrait plus souvent se gourer dans les morceaux qu'on lance, comme ça on pourrait faire des rectificatifs. C'est pas mal.
C'est le principe des séries.
Ouais.
C'est-à-dire previously et
oui.
La semaine des 5 heures.
Oui.
Voilà.
Quelque
rien
part.
Rien d'autre.
Absolument.
Ouais.
C'est previously.
Donc, sur,
voilà.
Sur ma to-do list, je barre Chapelle Rohan, enfin Chapelle Rohan, comme on dit. C'est fait.
C'est en ordre.
C'est en ordre.
Alors, je disais, c'est un replay, un subtil jeu de mots, mon
oui,
cher
Oui, que personne
Rudy.
N'a compris à
mais
part
non,
vous,
évidemment.
Parce que personne ne sait ce dont vous allez parler.
Mais non.
Mais l'important, c'est que ça vous mette en
voilà.
Joie.
Non, et c'est de faire du teasing.
Oui.
Et donc, replay, non, replay, avec L-E-Y, et donc pas replay, replay. Tom Ripley, héros d'un polar qui date de 1955, qui est rentré dans les classiques de la littérature policière, a droit à une nouvelle adaptation. C'est arrivé sur Netflix le 4 avril, c'est 8 épisodes et ça fait couler énormément d'encre. Beaucoup de presse s'y intéresse.
Alors, imaginons que, voilà, vous venez de le teaser,
oui.
De le lancer,
oui.
De préparer
oui.
Le terrain, et là, votre cerveau bug et vous nous parlez de la série Pattaya,
oui.
La série...
C'est tout à fait autre chose.
Oui, oui.
Et donc, je peux rediffuser ceci
voilà.
Éventuellement.
Mais en
demain.
Même temps... Bof.
Ouais, mais en même temps, il n'y a pas de musique, donc
ouais.
C'est moins excitant. Alors, c'est quoi ce Ripley ? Au départ, il y a un roman, donc Mr. Ripley, qui date de 1955, qui est signé Patricia Highsmith, j'y reviendrai. Qui est ce Tom Ripley ? Eh bien, c'est un jeune escroc qui vit de petites combines à New York, des faux papiers, des arnaques à l'assurance. Et toujours est-il qu'un jour, il est contacté par un riche armateur, Mr. Greenleaf. Et ce riche armateur a cru comprendre que Tom Ripley connaît bien son fils. En fait, c'est vrai que Tom Ripley a rencontré le fils Greenleaf, mais il ne le connaît pas plus que ça, mais il va bien se garder de dire que ce n'est qu'une simple connaissance. Il va dire, oui, bien sûr. Dicky, votre fils Dicky, oui, je le connais. Eh bien, justement, dit le paternel, comme vous le connaissez bien, j'ai pris mes renseignements. Écoutez, il est en train de dilapider mon argent en Italie. Il se prend pour un artiste. J'aimerais bien lui faire comprendre, on n'est pas à l'époque, on est en 55, l'action a été déportée au début des années 60, mais c'est un élément essentiel, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de fax, les communications sont lentes, c'est des lettres qui mettent du temps à arriver. Donc le père Greenleaf s'impatiente et aimerait bien que le fils Dicky rentre au bercail et... La manière la plus simple, selon lui, la plus convaincante, c'est d'envoyer un émissaire qui le connaît bien, de la même génération, donc Tom Ripley, en disant « Je vous paye le voyage, je vous paye vos frais, mais soyez convaincant et faites en sorte que Dicky revienne à New York et arrête cette aimable plaisanterie. » Tom Ripley, je dis « Si, secrètement, il dit « Voyage payé, j'ai même un crédit sur place pour pouvoir me loger. » Forcément, il accepte, avec sa nature d'escroc, il accepte le marché. Et le voilà qui débarque à Atrani, une petite ville côtière dans les environs de Naples. Et il retrouve effectivement la trace de Dicky, qui s'essaye à la peinture. Il est un peintre du dimanche, mais il a l'impression qu'il fait des progrès. Et il flirte avec une autre charmante américaine, Marge, qui, elle, s'essaye à l'écriture. Donc, ils vivent une vie de riche oisif à dilapider la fortune paternelle, parce que le paternel ne veut pas non plus lui couper les vivres, il veut plutôt essayer de retrouver son fils. Et ce Tom Ripley parvient effectivement à faire croire à Dicky, mais oui, souviens-toi Dicky, on s'est vu chez machin à tel cocktail, alors qu'il l'a peut-être vu quelques minutes, mais comme Dicky est assez mondain et ne veut se fâcher avec personne, et que ce Tom Ripley est tout à fait charmant, il me dit « Oh oui, excuse-moi si j'ai oublié, mais à force de m'installer ici en Italie, j'ai un peu perdu le contact avec des amis de New York. » Et toujours est-il que ce Tom Ripley parvient à s'immiscer, il est tellement sympathique, tellement bien élevé, tellement aimable, qu'il parvient à s'immiscer dans le quotidien du couple. Le couple ne vit pas ensemble, ils ont chacun leur atelier en quelque sorte. Marge voit l'arrivée de Tom Ripley d'un très très mauvais œil, parce que se dit ce type n'est pas net, bon, alors que Dicky dit mais si, il est sympathique. Et en plus Dicky, il y a un petit côté... avoir un faire-valoir à ses côtés, quoi, un type qui quelque part va visiblement le célébrer et qu'il va avec qui il va pouvoir faire la bringue. Mais Tom Ripley est évidemment beaucoup plus adroit et beaucoup plus duplice que cela, et va prendre de plus en plus de place, avec pour objectif de remplacer purement et simplement Dicky Greenleaf et de mener grand train avec avec son identité et son patrimoine. Voilà, ça c'est le démarrage. Alors cette intrigue, ce roman de Patricia Highsmith a terriblement inspiré les cinéastes. Il y a eu une première version en 1960 qui s'appelait Plein Soleil, avec un formidable duo Alain Delon, Maurice René et dans le rôle de Marge, Marie Laforêt. Vous avez peut-être vu ce film qui était étincelant de...
Non, je l'ai entendu, voilà. Hein, souvenez-vous, on m'envoyait dans ma chambre, j'écoutais le film dans l'escalier.
Voilà, oui, étincelant de lumière qui se passe effectivement sur la Riviera et qui révélait un Delon extrêmement animal, félin. Ce sera d'ailleurs le titre d'un autre film de René Clément. Et puis, en 1999, Anthony Minghella, l'homme du patient anglais, a fait un remake avec Matt Damon, Jude Law et Gwyneth Paltrow, qui avait aussi ses vertus. Et c'est assez intéressant parce que cet excellent roman, qui est vraiment classé dans le top 100 aux USA des meilleurs romans policiers, enfin on le retrouve dans tous les classements, a fourni matière à deux films très différents. Quelque part, le deuxième n'est pas le remake de Plein Soleil. Ils repartent chaque fois du roman. Alors, pourquoi faire une troisième version? Eh bien, cette troisième version, je la trouve absolument exceptionnelle. Et exceptionnelle parce que totalement atypique dans les productions actuelles. Je m'explique. D'abord, c'est tourné en noir et blanc. Qui est à la manœuvre ? C'est Steven Zalian. Et Steven Zalian, c'est un peu comme Paul Schrader, c'est-à-dire que c'est un type qui est beaucoup plus connu comme scénariste que comme réalisateur. Paul Schrader, il avait fait le scénario de Taxi Driver, il est également réalisateur, mais on dit toujours « Ah, le scénariste !» Eh bien, Steven Zalian, on dit toujours « Oh, le scénariste de la liste de Schindler !»
Paul Schrader, c'était la féline.
Aussi, oui, oui, Cat People, tout à fait, et American Gigolo, mais on retient toujours scénariste. Eh bien, Zalian, c'est un peu le même principe. On retient « Ah, oh, scénariste de la liste de Schindler, scénariste pour Scorsese de Gangs of New York, scénariste de Mission Impossible pour Brian De Palma. » Certes, c'est un excellent scénariste, mais c'est aussi de temps à autre un réalisateur. Et ça, vous l'aviez peut-être vu à l'époque, il avait signé déjà une mini-série tout à fait étonnante pour HBO qui s'appelait The Night Of, avec John Turturro et Riz Ahmed. Riz Ahmed qui joue un type accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis, défendu par un avocat tout à fait atypique, en sandales, presque avec un look de marginal complet, qui était incarné par John Turturro. Formidable.
Et voilà. C'était, je crois, l'extension...
D'une série anglaise.
D'un épisode. Un épisode était devenu alors décliné en une série complète.
Voilà. Et donc, Zalian n'a pas du tout peur de, justement, de... non pas de d'étirer inutilement, mais en tout cas de prendre son temps. Puisqu'ici, au lieu d'un film d'une heure et demie, de deux heures, on a 8 épisodes qui avoisinent les 50 minutes, parfois même une heure, et le dernier épisode fait une heure quart. Donc, on est presque devant 8 heures de fiction. Et donc, je dirais le premier atout, et je disais pourquoi c'est exceptionnel dans le sens... littéral du terme, c'est une exception à ce qu'on fait aujourd'hui. D'abord, c'est pour Netflix, c'est en noir et blanc. C'est dans un noir et blanc, mais absolument magnifique. Et ce noir et blanc n'est pas une coquetterie de mise en scène, comme certains auteurs aujourd'hui qui disent « Oh, je reviendrai bien en noir et blanc ». En fait, ça participe à la dimension film noir, parce que on pense à des films comme The Servant de Joseph Losey, des films des années 60, des films marquants des années 60, comme The Servant avec un Dirk Bogarde qui était très ambigu. On pense à la Dolce Vita de Fellini, puisque tout se déroule en Italie ici, et la Dolce Vita montrait des jeunes oisifs, mais avec des scènes nocturnes en noir et blanc qui étaient de toute beauté. Eh bien ici, Zalian renoue avec ça, parce qu'il y a énormément de scènes nocturnes dans diverses villes italiennes. Il y aura Naples, il y aura à Rome, parce que ce personnage de Ripley va voyager. C'est absolument magnifique. La direction photo est étourdissante. L'autre élément, pourquoi 8 heures ? La durée. Mais la durée même des scènes. C'est-à-dire que, sans dévoiler l'intrigue, il va y avoir des crimes. Et Zalian montre combien c'est difficile de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que même si on a réussi à lui ôter la vie, après ça, qu'est-ce qu'on fait du cadavre? Qu'est-ce qu'on fait des preuves? Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Et c'est filmé avec une méticulosité extraordinaire. Il y a deux épisodes où on a des scènes. Je pense que ça doit s'étirer presque sur une demi-heure. On est carrément presque dans du Melville. Ou même, j'ai pensé à, souvenez-vous de Psychose de Hitchcock, où Anthony Perkins essaye, une fois le crime commis, de liquider, et il y a la voiture qui s'embourbe, même pas complètement, il doit nettoyer la baignoire, tout ça prend un temps fou. Et bien ici, justement, Zalian revient à ça. C'est devenu totalement atypique aujourd'hui de faire ça, parce qu'aujourd'hui, justement, tout doit aller très très vite, et pour ne pas ennuyer le spectateur. Et ici, il prend le pari de la lenteur, du détail, et je trouve qu'on est devant des scènes mais quasi muettes, sonores, mais le personnage est seul par rapport au colis encombrant, et c'est d'une précision et d'un mystère absolument étourdissant. C'est pour ça que je disais que ça déclenche beaucoup d'articles, parce que certains vont dire « c'est lent », alors que ça ne raconte finalement pas grand-chose. C'est lent parce que on est face à un personnage qui va s'enferrer dans une mécanique d'escroquerie de plus en plus impressionnante, et ce personnage doit en permanence inventer de nouveaux mensonges, se réinventer lui-même. C'est absolument étourdissant. Et alors, troisième élément qui me fait adorer cette version, c'est la présence d'Andrew Scott, donc acteur anglais dont on a parlé récemment, qui était au générique de All of Us Strangers, et avant ça, qui a joué Moriarty dans L'ennemi de Sherlock Holmes, dans la série Sherlock, la relecture contemporaine de Sherlock. Andrew Scott est absolument impeccable parce que il est ambigu, ça ne doit pas être un personnage attachant ou sympathique, mais ça doit être un personnage auquel on a envie de s'intéresser. Et justement, ce personnage de Tom Ripley est tellement ambigu, on est dans un univers de faux semblants et un univers terriblement mouvant, et la manière, avec une économie de jeu, la manière dont il parvient justement à jouer ce personnage à la fois charmant et en même temps très introverti et en même temps inquiétant, là je pense qu'il a vraiment, je ne dis pas le trouver le rôle de sa carrière, mais il est absolument éclatant. On est content de revoir aussi dans le rôle de Marge, la fiancée de Dickie Greenleaf, la fiancée soupçonneuse. On est content de revoir Dakota Fanning parce qu'on parlait beaucoup de Elle Fanning. Et voilà la grande sœur Dakota qui revient avec un rôle consistant après une traversée du désert. Il y avait quand même beaucoup de choses qui n'avaient pas vraiment fonctionné.
La dernière chose dont je me souviens, c'est son rôle dans le biopic sur les Runaways.
Oui, c'est dit. Et là, vraiment, très très bonne chose. Le Greenleaf, pour parler du trio, est joué par John Flynn, qui est un acteur anglais qu'on a vu récemment jouer Anthony Hopkins jeune dans le film One Life. Vous vous souvenez de ce héros ordinaire qui sauvait la vie d'énormément d'enfants juste avant la Seconde Guerre mondiale. Film qui a remporté d'ailleurs un grand succès en salle. Donc voilà, Steven Zaillian n'est pas seulement un formidable scénariste, mais il prouve ici, il l'avait déjà prouvé avec Night Of, hein, mais il prouve vraiment qu'il réalise, là, il a 71 ans aujourd'hui, mais il fait vraiment une œuvre, quoi, par rapport à ce replay de Patricia Highsmith. On est devant quelque chose. Et on est d'autant plus, pas frustré, mais aussi, c'est quand même, l'économie du cinéma anglo-saxon et de la production audiovisuelle aujourd'hui est telle qu'on se dit, mais quand des artistes comme ça, on peut parler des directeurs photo, ont les coups des franges pour faire ce qu'ils ont envie de faire, on se dit, ah, il y a quand même encore une force, une puissance dramatique dans leur cinéma. Et souvent, aujourd'hui, ils ont un peu les pieds et les poings liés parce que, on imagine bien que c'est pas le projet le plus bankable et le plus vendeur. Au départ, c'était Showtime qui était à la manœuvre et c'est Netflix qui le récupère pour sa diffusion aujourd'hui.
Et pour son plus grand bonheur, vous venez de dire que ça fonctionnait.
Ah, en tout cas, ça déclenche beaucoup, beaucoup de presse. Je sais pas, et je pense qu'à mon avis, on retrouvera ça dans les nominations pour les séries télévisées en temps utile. Mais est-ce que ça va faire des millions et des millions de clics? On sait bien que les hit-parades de Netflix sont toujours assez, assez difficiles à décoder. Voilà, mais donc, si vous aimez le... C'est à la fois du cinéma à l'ancienne, mais en même temps, il y a une modernité dans l'approche, parce qu'il y a beaucoup, il y a plein d'allusions à l'homosexualité, éventuelle des personnages, le jeu de séduction, qui n'était beaucoup plus difficile d'évoquer dans les films des années 60. Voilà, je pense que, et si vous aimez un autre rythme de narration, précipitez-vous sur ce replay de Steven Zaillian, avec donc Andrew Scott. Voilà ma priorité au niveau des séries cette semaine-ci, mon cher Rudy.
Oui, effectivement, c'est pas dans le top 10.
Ah non, non, mais il y a déjà le noir et blanc. Hein, on sait bien que le noir et blanc est déjà une sorte de filtre à l'entrée. Mais une fois encore, ici, ce noir et blanc est très, très, très légitime et participe au mystère et à l'ambiance de la série.
Oui. Enfin, ils ont parfois plutôt tendance aussi à mettre en avant les séries qui ont coûté beaucoup d'argent et dans lesquelles ils se sont beaucoup investis dans tous les sens du terme.
Mais ici, comme la reconstitution d'époque, elle est comment ?
Tirée au cordeau.
Elle est tirée au cordeau. Peut-être qu'elle a quand même coûté un peu d'argent parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extérieurs. Hein. On n'est pas tout le temps devant les trois mêmes rues pavées. Il y a quand même beaucoup d'extérieurs et beaucoup de location, comme ils disent, beaucoup de lieux de tournage différents.
Numéro un, c'est toujours le problème à trois corps.
Voilà.
Qui n'est pas non plus
non,
la série la plus facile d'accès.
Non, et qui apparemment est trop chère par rapport à ce qu'elle rapporte en niveau de vue, et donc son avenir...
20 millions l'épisode.
Son avenir est hypothétique, à ce stade-ci, d'après ce que j'ai lu. Donc, espérons que ce ne soit pas de mauvais augure. Voilà, alors après avoir écouté Chapelle Rohan. Qu'est-ce qu'on réécoute ?
On va la réécouter. D'accord. Vous nous reparlez de Ripley demain ou vendredi ?
Éventuellement dans la deuxième partie. Non, mais dans la deuxième partie d'émission, je vais vous donner, si vous aimez ça, chers auditeurs, quelques conseils sur l'univers de Patricia Highsmith qui a été moult fois adapté au cinéma et à la télévision.
Vous voyez que vous recyclez.
Voilà. Évidemment.
On est chez Vinted. Ça, en revanche...
C'est tendance, de toute façon.
Vinted
le recyclage.
Oui. Si vous le dites.
Bah oui.
C'est vous les tendances. Hein. Moi, je vous suis. Hein,
ouais,
si
c'est
vous...
un peu comme le glamping.
Oui. Le glamping. Voilà. Dites, à propos de tendance, là, on va franchement y aller avec du tout nouveau. On va quitter le noir et blanc pour la couleur, mais alors beaucoup de couleurs, puisque pour votre plus grand bonheur, je sais que souvent... Vous vous faites du souci pour eux. Et vous me demandez des nouvelles de Empire of the Sun.
Oui. Voilà. Est-ce qu'ils ont toujours des beaux petits maquillages ?
Oui.
Ces Australiens excentriques.
Ils ont toujours les chapeaux à plumes qui ont terriblement inspiré le turban du fakir de la Saoudée.
Est-ce qu'ils font toujours des clips idiots où ils montent sur des monuments publics avec des chorégraphies grotesques ?
Pas encore vu celui-ci. Je n'ai pas eu la curiosité d'aller jusque-là. Donc c'est leur retour après 8 années de
glandage.
De glandage, voilà. Mais la panoplie est toujours parfaitement en ordre.
Vous me rassurez.
Oui, la garde-robe est strictement comme elle l'était il y a 8 années. Ça veut dire du glam, des plumes, des paillettes, du kitsch. C'est donc Empire of the Sun et la nouvelle chanson qui annonce je ne sais pas quoi. Voilà, ils avaient envie en tout cas de sortir un titre. On verra s'il y aura une suite. Et cette suite, en tout cas pour l'instant, elle est résumée à un seul titre qui a pour nom Changes Empire of the Sun. Empire of the Sun.
Rien n'a bougé.
Non, je pense qu'on avait mis...
dans un autre espace-temps.
On les avait surgelés, je crois. On vient de les dégeler. Et alors, vous l'avez entendu, hein, on avait mis un capot sur la table de mixage. Il était scellé.
Un truc en plexiglas, comme ça.
Scellé, avec du plomb. Comme ça, on n'a pas touché au réglage.
Non.
Ce sont les mêmes qu'il y a 8 ans.
Étonnant, hein.
Moi, je dis, c'est un concept, c'est une œuvre.
Oui, Timeless Empire of the Sun. Oui. Ah, dites donc, vous avez été attiré par un petit logo qui s'appelle A24,
oui.
Je crois. Hein.
Oui, en fait, tous les films A24 qui restent inédits chez nous finissent avec un peu de patience par arriver sur l'une ou l'autre plateforme. Pas toujours la même.
Non.
Voilà, donc il faut un tout petit peu chercher. Et donc sur Netflix...
Je rappelle, A24, c'est un peu, quelque part, le nouveau Miramax, hein, il faut bien le dire, puisque les frères Weinstein, il y a bien eu de Weinstein et compagnie, mais on sait bien que tout ça a sombré pour les raisons que l'on sait. Et la nature ayant horreur du vide, de nouveaux défricheurs de talents américains ont créé une boîte indépendante qui s'appelle A24. Ils se sont d'abord spécialisés dans le film de genre et le film d'horreur, mais ils élargissent de plus en plus le champ.
Hein. Zone of Interest, c'est A24.
Oui. Ils sont soit producteurs, soit distributeurs aux USA. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec Miramax.
Moi, je les compare souvent à un label de musique à la grande époque où les labels avaient une ligne éditoriale.
Voilà.
On savait que chez Mute, on aurait le meilleur de l'électro. Chez Island, on allait avoir aussi une vision assez panoramique d'un certain style de musique fait par un certain style de personne pour un certain style d'auditeur. Voilà. Il y avait vraiment une ligne. On pouvait pratiquement écouter les yeux fermés parce que il y avait une intention.
Ouais,
c'est un petit peu ce type d'attitude que reprend A24 pour le cinéma. Donc, le film qui est arrivé sur plateforme a pour nom Bodies, Bodies, Bodies.
Corps.
Retroact, il date de 2022. Mm-hmm. Il était présenté dans pas mal de festivals, dont South by Southwest. Et voilà, je vous montre l'affiche du film. Et je vous montre aussi, j'adore le slogan, This is not a safe space. Mm. Ce qui veut dire beaucoup de choses que je vais développer. D'abord, une curiosité, c'est que derrière la caméra de ce film qui est américain, avec un casting américain, on va y revenir, on a une actrice hollandaise. Donc c'est très très curieux, qui a pour nom Alina Rehn, et cette actrice hollandaise, qui donc est aussi réalisatrice, je l'ai vue cet été, je pensais vous en parler, ça m'est complètement sorti de la tête, sur Arte, dans une série hollandaise, qui a pour nom Red Light, et qui met en scène un formidable trio féminin, un triangle fait d'une femme flic, d'une prostituée et d'une bourgeoise. Elle est cette bourgeoise et elles sont toutes les trois embarquées dans une histoire sur laquelle l'une enquête, l'autre est victime et la troisième est un peu soupçonnée d'être l'instigatrice.
Mais je pense que ce n'est plus disponible sur Arte. Ça reviendra peut-être dans le carrousel. Hein.
Red. Oui, ou alors les droits vont passer
d'une plateforme à l'autre.
Alors, ça parle de quoi, Bodies, Bodies, Bodies? On est dans une espèce de grande maison isolée dans la campagne. On sent qu'on est chez des gens qui ont les moyens. Mmh. Voilà, piscine, pergola, pool house. Et dans cette maison, dans le jardin de cette maison, se prépare une méga teuf avec des jeunes d'une vingtaine d'années. Alors là, on a une galerie de portraits. On a le fils des propriétaires, qui a pour nom David. On a sa petite amie. On a une podcasteuse à la mode qui est là, qui a été invitée. On a aussi le petit ami d'une autre amie qui est là, qui lui est un peu plus âgée. Et puis elle est venue avec une amie d'une amie cooptée. On a donc une sorte de groupe assez différent.
Hétérogène.
Et hétérogène. Voilà. Et évidemment, autour de la piscine, c'est beaucoup de drogue, beaucoup de musique, énormément d'alcool. Et ils se décident en fin de soirée de jouer à un jeu qu'ils appellent Bodies, Bodies, Bodies. Je ne sais pas si ce jeu existe vraiment. Et c'est une sorte de jeu murder party. Un peu un jeu du loup-garou, quoi. Oui. On décide qu'il y a des assassins, mais on ne les désigne pas. Il y a ceux qui doivent se défendre, un peu comme dans le loup-garou. On doit deviner qui est l'assassin. Évidemment, tout ça se passe avec des téléphones, parce qu'on est dans une sorte de monde extrêmement connecté et numérisé, un monde qui ressemble terriblement à un Wooden It, parce que d'entrée de jeu, on va s'apercevoir que cette espèce de partie totalement innocente et ludique va mal tourner, et il y a un vrai cadavre, donc le fils des propriétaires.
Et l'expression « This is not a safe space », c'est une expression consacrée dans le langage courant américain.
Vous savez ce que c'est un « safe space » ? Ce sont par exemple des réunions où on exclut. Un « safe space », par exemple, pour des féministes, ça sera une réunion où les hommes sont exclus.
D'accord.
Où la prise de parole sera uniquement la prise de parole de femmes, qui ne seront pas interrompues par un homme qui viendra se donner son point de vue d'homme. Donc on est dans une sorte de safe space. Il y a des soirées comme ça. En général, les safe space, ce sont des endroits réservés où certains ne sont pas admis pour laisser une espèce de liberté de parole,
et de confidentialité quelque part.
Pas forcément, mais c'est en tout cas de se retrouver entre soi pour pouvoir parler de choses sans être interrompu par des observateurs qui ont juste un avis sur la question, mais cette question, ils ne la vivent pas.
Oui, en fait, donc cette émission, chaque soir, c'est de l'anti-space, puisqu'on va toujours être interrompu.
Voilà. Donc l'expression, c'est a safe space, et donc c'est retourner un peu la chaussette en disant this is not a safe space. Et donc, dans cette espèce de wooden it moderne,
et
plus vrai que nature, on va avoir une sorte. Il y a un vrai suspense, il y a une vraie enquête avec une vraie fin, un vrai rebondissement et un vrai stut à découvrir. Mais évidemment, cette enquête, plutôt que d'être menée comme dans Glass Onion, par quelqu'un qui va observer.
Oui, par un Benoît Blanc qui arrive. Voilà. Oui, il n'y a pas de détective qui arrive. Non, pas de Deus Ex Machina.
Ici, pas du tout. On est vraiment dans la génération Instagram qui utilise la technologie. Donc, c'est essayer de se retrouver avec de la géolocalisation. Mais pour ça, il faut du réseau. Et quand il n'y a pas de 4G, que la maison est perdue et que le meurtrier présumé coupe le Wi-Fi, chacun se retrouve complètement perdu, parce que sans cette extension de la main qui est, ou du cerveau qui est le smartphone, ils sont complètement perdus. Voilà, donc on a vraiment des tas de stéréotypes ambulants assez bien dépeints d'une jeunesse dorée d'une vingtaine d'années dans l'Amérique d'aujourd'hui. Et c'est en même temps, il y a beaucoup d'action, mais c'est un huis clos, donc c'est aussi extrêmement verbeux. Je vous conseille de regarder ça avec les meilleurs sous-titres possibles parce que il y a beaucoup.
C'est soutenu.
Ouais, c'est soutenu. Les interventions, les dialogues, les prises de parole, ils vont en rafale. Et ces prises de parole par cette génération dont l'espèce de vacuité est dénoncée à travers ce suspense et ce film, eh bien cette génération, elle est interprétée par une brochette d'acteurs absolument formidable, puisqu'on y retrouve que des amis à moi. Pete Davidson, dont je vous ai parlé récemment, ce stand-upper et acteur, qui est le fils du pompier, vous savez, son père est mort en voulant sauver des vies et en intervenant dans l'attentat des Twin Towers à New York. Et il a suivi toute une thérapie, il est acteur aujourd'hui. Voilà. Pete Davidson, on a Rachel Sennott, qu'on a vu dans The Idol et dans Bottoms, dont je parlais récemment. On a Amanda Stenberg, et là, c'est vous qui nous en aviez parlé, et vous aviez même épinglé avec beaucoup d'enthousiasme le film The Hate U Give, une sorte d'échappée thriller, course-poursuite sur fond de racisme avec cette jeune fille qu'on retrouve dans...
C'est un film qui avait défrayé la chronique aux US.
Absolument.
Oui.
On retrouve aussi Chase We Wonder qu'on a vu récemment dans Past Life de Céline Sung, film que vous avez évoqué ici très très récemment.
Oui, avec cette histoire d'amour entre une Coréenne installée aux USA et qui voit un ami d'enfance qui est resté en Corée et qui revient et se demande s'ils vont... C'est arrivé jusqu'aux Oscars, ce film-là de Céline Song. Donc, effectivement, d'après les acteurs que vous citez, c'est tous des acteurs qui sont forts en train de breaker.
Voilà, qui étaient tous en devenir au moment du tournage. Oui, je terminerai en signalant aussi la présence de Mia LaHerold. Alors, ça ne vous dira rien, sauf si je vous dis que dans le film « Le monde après nous », elle était la fille du propriétaire qui vient frapper à la porte de ce couple qui avait loué l'Airbnb en disant « si vous voulez nous héberger, je suis le propriétaire, je suis là avec ma fille ». Voilà, donc on a vraiment une belle brochette d'acteurs. C'est sûr que voilà, le scénario est assez ténu, mais comme il est défendu par des gens qui ont l'épaisseur et l'inventivité dans leur jeu pour défendre cette intrigue qui tient finalement sur un post-it, le film tient vraiment ses promesses, d'autant que voilà, la narration ne débouche pas...
Et puis c'est un film, c'est pas une série qui tirerait en longueur. On a un film de 90 minutes. Donc,
voilà, il y a un vrai suspense et une vraie fin avec une vraie résolution assez inattendue.
Très bien.
Ça s'appelle Bodies, Bodies, Bodies. C'est un film et on peut le voir sur Netflix.
Et donc... Pendant que Empire of the Sun, nos amis australiens, étaient bloqués dans la glace de l'espace-temps avec une musique qui n'évolue pas, qui en a profité pour faire autre chose ?
Effectivement, c'est quelqu'un qui en a profité pour faire complètement autre chose, parce qu'au départ, elle est chanteuse dans un groupe. Le groupe s'appelle Churches, groupe qui était sur une pente ascendante. Et tout à coup, pour Dieu sait quelle raison, elle s'aventure en solo. Elle s'appelle Lauren Mayberry, chanteuse de Churches, elle prépare quelque chose en solo. Voici son nouveau titre, il a pour nom Change Shapes. Lauren Mayberry, la chanteuse de Churches.
So now I'm running, gonna roll that dice. I wonder what would happen if you changed. Yeah, right.
Lauren Mayberry des Churches en solo, la chanson a pour nom Change Shapes.
Et je vous l'évoquais en début de cette émission, j'avais envie de vous résumer le parcours de Patricia Highsmith, qui a été l'auteur fondatrice de Ripley, parce que il y a quand même une question, bon, les polars, on sait bien qu'il y a eu la vogue des polars scandinaves, enfin on a énormément, j'ai envie de dire que l'industrie du polar a rarement été aussi florissante qu'aujourd'hui dans le monde de l'édition, et pourtant il y a encore certains, bon on a déjà évoqué mille fois le cas d'Agatha Christie, mais Agatha Christie c'est du roman à énigmes, c'est du whodunit, mais par contre des romans noirs, il est assez étonnant de voir que certains continuent d'inspirer le cinéma ou les séries ou la production audiovisuelle contemporaine. Et c'est le cas de Patricia Highsmith. Alors, on pourrait citer en Belgique et dans le monde francophone Simenon, dont on n'arrête pas de faire encore des adaptations, alors que ce sont des romans très inscrits dans leur époque, quoi. Ce sont des romans rétro où les dimensions, j'évoquais les moyens de communication de l'époque, sont partie constitutive de l'intrigue. On ne peut pas les moderniser. Eh bien, je pense que chez Patricia Highsmith, il y a d'abord effectivement des excellentes histoires, des très très bons personnages, mais aussi c'est vraiment la reine de l'ambiguïté, voire de la perversité. C'est-à-dire que on a souvent des personnages qui dérapent. Et elle disait d'ailleurs, une de ses répliques célèbres, elle disait « N'importe qui peut assassiner, c'est une question de circonstance, ça n'a rien à voir avec leur tempérament, même votre grand-mère pourrait tuer quelqu'un. » Et elle a très très fort explorer ça dans son
mais univers. Mais pas nous.
Non, pas nous.
Ah, Julien Demeuse.
C'est explorer des circonstances où parfois là, on franchit la ligne. Et pour mémoire, pourquoi est-ce qu'elle est rentrée si rapidement dans l'histoire du cinéma? Mais dès son premier roman est acheté anonymement pour ne pas le vendre trop cher. Il est vendu 7 500 $ et c'était Strangers on a Train qui deviendra L'inconnu du Nord Express, un des meilleurs films de Hitchcock. Mais Hitchcock, roublard, n'a pas dit « je suis intéressé par votre bouquin, sinon les prix allaient monter ». Donc il l'a fait acheter de manière quasi anonyme. Et donc Strangers on a Train, c'était quoi? C'est l'idée, pour ceux qui n'ont pas vu ce classique, c'est l'idée géniale. C'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent dans un train et qui vont échanger leur projet de meurtre. Je vais tuer quelqu'un qui t'ennuie et toi, en échange, tu tueras quelqu'un qui m'ennuie. Idée absolument géniale.
Oui, on se sépare, on se revoit
et
plus.
Et voilà, idée géniale qui donne un film génial et que pourtant Patricia Highsmith n'aimait pas tellement parce qu'elle dit la fin est quand même beaucoup, beaucoup, du film est beaucoup trop morale. Moi, je n'ai aucune... Elle adorait les histoires totalement immorales parce qu'elle-même était extrêmement misanthrope et pessimiste. Donc, c'est quelqu'un qui a une existence très, très marginale, mais en même temps qui a fait une œuvre profondément singulière. Alors, j'ai cité, on peut revoir, évidemment, L'inconnu du Nord Express, mais on peut, par exemple, beaucoup plus récemment, sous le pseudonyme de Claire Morgan, elle avait écrit un roman qui s'appelait Le Prix du sel et qui est devenu le formidable Carole de Todd Haynes avec Cate Blanchett et Rooney Mara. Pourquoi est-ce qu'elle l'avait publié sous un pseudonyme? Parce que c'était dans les années 50 et c'était une histoire d'amour lesbien, d'amour homosexuel avec une grande bourgeoise qui quittait son mari pour aller avec une modeste vendeuse de grands magasins beaucoup plus jeune qu'elle. Et heureusement, Todd Haynes en a fait une magnifique adaptation en 2015. C'est probablement un de ses plus beaux films. Mais donc, je vais parler d'immoralité. Elle était totalement hors norme pour l'époque. Et là, évidemment, elle a dû choisir un pseudonyme pour raconter cette histoire de lesbianisme qui était son penchant naturel. J'ai envie de citer, mon cher Rudy, encore... Le cinéma français s'en est emparé plein de fois. Il y a eu Eau profonde de Michel Deville, Le cri du hibou de Chabrol, Dites-lui que je l'aime de Claude Miller. Donc, elle a été adaptée absolument partout. Mais alors, j'ai envie de vous signaler une pépite qui est sortie en 2014. Ne me demandez pas sur quelle plateforme on peut l'acheter, mais c'est forcément trouvable. Ça s'appelle Les deux visages de Janvier, Les deux visages de Janus. Et c'était avec un trio formidable, Viggo Mortensen, Kirsten Dunst et Oscar Isaac. Il est aussi question d'escroquerie. Et en même temps, c'est pendant un voyage touristique à Athènes. Et là encore, un trio de personnages. Mais quelque part comme dans Ripley, mais avec une histoire, une intrigue très 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 différente et qui prouvait une fois de plus l'étendue du talent de Viggo Mortensen. Viggo Mortensen dont on parlera très très prochainement, puisque Viggo Mortensen, on va déjà retrouver son nouveau film à la COD de Namur ce jeudi soir. Et puis on parlera plus en détail de son nouveau film, qui sort début mai. Voilà, donc si vous avez envie, si vous avez eu du bonheur avec Ripley, que vous avez déjà consommé les 8 épisodes, vous dites « j'aime bien cet univers », eh bien vous pouvez voir Strangers on a Train si vous ne le connaissez pas. Et ce film peu connu qui est « Les deux visages de Janvier » de Hossein Amini, qui était le scénariste de Drive, figurez-vous. Voilà.
Non, ça se trouve pas sur des plateformes.
Ah, mais ça...
Même payantes.
Ah, mais pour ceux qui ont encore des lecteurs de DVD, puisque c'est le support préféré de Christopher Nolan, il dit « vive le support physique », donc n'hésitez pas. Voilà, donc Patricia Highsmith, absolument, comment dire, inépuisable romancière qui est donc mise à l'honneur avec la série Ripley pour l'instant sur Netflix.
Très bien, ceci ferme la marche pour aujourd'hui. Enfin,
absolument.
Presque, hein, on va finir en fanfare, mais
oh oui.
Ça ferme la marche parlée.
La marche feuilletonesque.
La marche feuilletonesque. Oui. Merci Julien Demeuse. On se revoit cette semaine ou c'est un adieu pour... On ne sait pas. On verra.
Tout dépend si... tout dépend le montant du chèque.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est comme les droits de Strangers on the Train, c'est le montant du chèque.
Voilà. Je voulais qu'on se quitte aujourd'hui avec Saint-Vincent, qui est une chanteuse.
Ah, ce n'est pas le titre du film.
Non, c'est le même nom, mais je pense que Annie Clark, de son vrai nom, new-yorkaise, existe. C'était avant ce film
qui était avec Bill Murray.
Oui, qui était présenté en COD. Saint-Vincent, elle est de retour après quelques mois, voire années de silence. Elle sort un nouvel album, All Born Screaming, donc tous les nouveaux-nés crient. Le 26 avril prochain, c'est de l'underground. Hein, elle est new-yorkaise. En 2019, elle était Grammy Award de la meilleure chanson rock pour son single Mass Seduction. Produit par Jack Antonoff.
Ah.
Le Jack, celui de Lana Del Rey. Oh oui, à propos.
Oui.
Quel bazar, Coachella. Je fais vite. En fait, un comité de quartier a eu raison de ses revendications. Il y aura un couvre-feu. Donc, du coup, ils doivent réaménager tous les horaires. Mais ça commence après-demain. Donc, du coup, Lana Del Rey, on connaît un peu le profil, qui devait jouer à minuit, va devoir jouer 40 minutes plus tôt. Et c'est un vrai drame pour les fans qui doivent s'organiser, qui viennent de loin et tout. D'autant qu'on annonce que Taylor Swift va la rejoindre sur scène. Donc il ne s'agit pas d'arriver avec 40 minutes de retard à un concert qui est censé démarrer 40 minutes plus tôt. Voilà, fin de la parenthèse pour le Coachella.
Saint Vincent,
la chanson a pour nos Broken Men, et comme tout le monde l'adore, c'est Dave Grohl qui tape sur les fûts dans cette chanson. Elle sera en concert le 4 juin à Anvers. À demain.
À demain. On the street, I'm a king-size killer. I can make your kingdom come. La première. L'esprit clair.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.